Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Capot Diamant et Curium. Au programme, La Terre du Chien et Cupidon est un chimiste. Bonne écoute!
La terre du chien, la présence autochtone à Rimouski, un texte de William Chassé, paru dans l'édition Été 2021 numéro 146 de la revue Capot Diamant. Dans la tradition écrite et orale rimousquoise, le toponyme Rimouski est souvent associé aux langues autochtones, le plus souvent aux Malécites, aux Micmac ou à l'Innu, et signifierait « terre à l'orignal » ou « rivière aux chiens ». De récentes recherches montrent qu'il pourrait plutôt s'agir d'un terme malécite signifiant « terre du chien », probablement par référence au loup ou chien marin, et écarte définitivement la traduction « terre à l'orignal ». Lors de l'arrivée des premiers explorateurs européens au début du XVIIe siècle, des populations autochtones fréquentent déjà le territoire qui deviendra la ville de Rimouski, et ce, depuis des millénaires. Ces communautés établissent des campements près de la rivière et vivent des ressources qu'offre la côte sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Ces nations, dont les traces remontent à la période dite du paléo-indien qui débute 13 000 ans avant aujourd'hui, côtoient ensuite les premiers colons européens et sont présentes sur le territoire durant les siècles qui suivent jusqu'à nos jours. Une présence millénaire. En 1991, une équipe d'archéologues travaillant pour le compte du ministère des Transports du Québec a découvert un site du paléo-indien sur les hauteurs de Rimouski. Daté de 8500 à 8000 ans avant aujourd'hui, ce site montre l'occupation du territoire par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Ces paléo-indiens auraient migré vers le territoire de Rimouski depuis la région des Grands Lacs et la Nouvelle-Angleterre, qu'ils occupaient déjà il y a plus de 10 000 ans. À cette époque, le paysage de Rimouski est complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il consiste en un environnement dominé par une pessière ouverte qui borde la mer de Goldthwait, une grande étendue d'eau formée par le retrait des glaciers. Ces groupes fréquentent les rives de cette mer où la chasse aux caribous et les ressources halieutiques leur permettent de subsister. Les outils en pierre mis au jour lors de la fouille archéologique sont constitués de matériaux provenant de Sainte-Anne-des-Monts et de la région du lac Mégantic et mettent donc en lumière la grande mobilité et les réseaux d'échanges complexes des groupes humains de cette période. Plus récemment, les archéologues du Laboratoire d'archéologie et de patrimoine de Lucar ont animé un chantier-école de fouilles archéologiques sur l'île Saint-Barnabé, en face de Rimouski, avec l'objectif de mettre au jour des vestiges des occupations successives de l'île du 18e au 20e siècle. Entre 2009 et 2017, plusieurs artefacts autochtones ont été trouvés, dont des bifaces, des pointes de projectiles, des grattoirs et des éclats de taille. Bien qu'ils aient été découverts dans des contextes perturbés par les occupations successives de l'île, défrichages, labourages, constructions, certains de ces artefacts présentent des caractéristiques permettant de les rattacher à la période de l'archaïque supérieure de 5000 à 3500 ans avant aujourd'hui. Durant cette période, le climat devient de plus en plus chaud avec le retrait des glaciers. Le paysage de toundra fait progressivement place à celui d'une forêt de conifères. Si la région est toujours habitée par des groupes nomades de chasseurs-cueilleurs, ceux-ci jouissent dorénavant d'un environnement plus doux et d'un écosystème plus diversifié. Le retrait de la mer de Goldthwaite forme une topographie en terrasse, donnant à la région de Rimouski son allure de gigantesque amphithéâtre. Ces différentes terrasses forment des lieux propices à l'occupation humaine, particulièrement en période estivale. À l'intérieur des terres, les forêts abondent en lièvres, caribous, orignaux et castors. Les zones de littoral accueillent une grande variété de ressources animales. Les groupes humains peuvent y trouver différentes espèces de poissons, des mollusques, des oiseaux littoraux et des mammifères marins. La région de Rimouski, située sur le littoral et traversée par des rivières, constitue un terrain de prédilection pour les séjours saisonniers de ces groupes de chasseurs-cueilleurs. À l'époque des premiers contacts. Au XVIe siècle, lorsque Jacques Cartier effectue ses premiers voyages dans le Golfe et l'estuaire du Saint-Laurent, la région de Rimouski est fréquentée par des Iroquois du Saint-Laurent. Si les écrits de l'explorateur ne mentionnent aucune rencontre avec des autochtones entre Gaspé et Stadaconé, des découvertes archéologiques permettent de confirmer leur présence, notamment dans le secteur du Bic. Des groupes occupent des territoires de la vallée du Saint-Laurent durant la majeure partie de l'année et, lors de la saison estivale, descendent le fleuve pour profiter des ressources halieutiques du golfe et échanger avec les nations locales. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, de nombreux pêcheurs basques commencent à s'aventurer dans l'estuaire pour y troquer des fourrures avec les autochtones en complément de leurs activités de pêche. La région de Rimouski, compte tenu de sa position géographique, est probablement l'un des nombreux lieux où Européens et autochtones se rencontrent. Entre 1550 et 1580, les Iroquois du Saint-Laurent disparaissent dans des circonstances encore aujourd'hui mal comprises. Épidémie, dispersion sur le territoire ou absorption de la population par d'autres nations à la suite de guerres, les théories sont multiples. Quoi qu'il en soit, lors du premier voyage de Samuel de Champlain, en 1603, ce dernier constate leur disparition. À partir de ce moment, la région de Rimouski est un territoire à mi-chemin entre ceux des Micmacs, Mi'kmaq, et des Malécides, Wolastoqiyik. Ces deux nations font partie de la famille linguistique algonquienne, mais forment deux cultures distinctes. Elles sont composées de groupes de chasseurs-cueilleurs nomades qui occupent les régions côtières près des rivières durant la période estivale et hivernent à l'intérieur des terres. Les Micmacs occupent les régions des maritimes et fréquentent régulièrement la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent, notamment les régions de Mitis et de Matane. Les Malécites occupent quant à eux les territoires du Maine, du Madawaska et de l'ouest du Bas-Saint-Laurent et fréquentent régulièrement la région s'étendant du Kamouraska au Bic. Ces deux nations sont parmi les premières que croise Champlain au cours de ses voyages. Lors de son séjour à Tadoussac, il rencontre un groupe de Malécites provenant de la rive sud du Saint-Laurent. Dans les débuts de la colonisation française, les Malécites participent aux côtés des Français aux guerres contre les Iroquois. Si les écrits de Champlain semblent montrer que la région du Bas-Saint-Laurent est alors occupée par plusieurs groupes malécites, les informations se raréfient rapidement à partir des années 1620. Pour le reste du XVIIe siècle, le territoire apparaît dans les sources comme un lieu vidé de ses occupants autochtones. Les épidémies et les nombreux raids iroquois contre les Malécites et les Micmacs seraient responsables de cette désertion, ces deux groupes préférant se réfugier vers l'intérieur des terres et vers l'est. Les Malécites et les Micmacs ne seraient revenus dans la région de Rimouski qu'avec l'essoufflement des guerres iroquoises dans les dernières années du XVIIe siècle. Pendant cette période, le Bas-Saint-Laurent est toutefois visité par les Montagnais, Innus, venus de la rive nord du fleuve. Ils chassent sur la rive sud du Saint-Laurent dans les années 1630 et guident plusieurs missionnaires sur le territoire dans les années qui suivent. À l'hiver 1663-1664, des Montagnais accompagnent le père Henri Nouvel dans son voyage qui le mène notamment sur les rivages face à l'île Saint-Barnabé. Le père Nouvel y célèbre le 8 décembre 1663 la messe de l'Immaculée Conception avant de repartir. Son récit du voyage mentionne l'effroi que ressentent les Montagnais à l'idée d'une attaque iroquoise, ce qui rejoint la thèse de la désertion des Malécites et des Micmacs à cause de la guerre. À partir de 1670, les Montagnais cessent de fréquenter le territoire et peu après, les Malécites et les Micmacs y reviennent. Vous écoutez La Terre du Chien, la présence autochtone à Rimouski, un texte de William Chassé, paru dans l'édition Été 2021 numéro 146 de la revue Capodiamant. Cohabitation et évangélisation. Il est fort probable que des groupes Micmac et Malécites se trouvent sur les lieux quand la seigneurie de Rimouski est concédée en 1696 et que les premières familles européennes s'y installent. Les colons européens choisissent souvent des sites d'occupation autochtones pour fonder un établissement. La proximité de ces autochtones donne l'occasion aux colons d'échanger des objets manufacturés contre différentes ressources. Les premières années d'un établissement peuvent être particulièrement difficiles, surtout lorsqu'il est éloigné de Québec et du cœur de la colonie. Aussi, l'aide des autochtones pour se déplacer et obtenir des ressources alimentaires est bien souvent nécessaire. Les seigneuries de Rimouski, de Pointe-au-Père et de Lanseau-Coq ont été concédées avec un droit de traite avec les autochtones, ce qui laisse supposer une présence fréquente des groupes Malécites et Micmacs dans la région. Nous disposons de peu d'informations sur la population autochtone qui fréquente le territoire durant les premières années de l'établissement français. L'historienne Béatrice Chassé a compté 10 autochtones baptisés à Rimouski entre 1701 et 1720, tandis que l'historien Serge Goudreau a dénombré 43 actes civils impliquant des autochtones avant 1750. Deux raisons expliquent que ce nombre soit si peu élevé. Premièrement, aucun prêtre missionnaire n'est présent de façon permanente à Rimouski. Ainsi, durant tout le XVIIIe siècle, Rimouski n'est desservi que de manière intermittente par les Récollets. Plusieurs années peuvent s'écouler avant qu'un religieux ne se présente et nombreux sont les autochtones qui ne peuvent se faire baptiser. Deuxièmement, les Malécites et les Micmacs forment des petits groupes nomades qui restent brièvement à Rimouski, laissant ainsi peu de traces dans les registres paroissiaux. La correspondance coloniale nous informe qu'en novembre 1717, un missionnaire récollet, Philippe-Pierre Sauvenier de Copin, est envoyé à Rimouski pour fonder une nouvelle mission catholique. ce projet d'évangélisation tend à montrer une présence autochtone soutenue dans la région de Rimouski, assez pour que les Récollets y établissent une mission. Le Récollet ne reste toutefois à Rimouski que quelques mois avant de partir pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière en mars 1718. Dans la première moitié du 18e siècle, des mariages parmi les Autochtones et avec des Européens sont également célébrés, montrant une cohabitation étroite entre les deux groupes. Dispersion et redécouverte de l'héritage autochtone. À la fin du régime français et durant la période de la conquête, les Autochtones sont toujours bien présents à Rimouski. En 1766, le voyageur Pierre de Salles-Laterrière rencontre un campement Micmac ou Bic. Ses occupants sont catholiques, parlent français et pêchent dans les eaux du Havre durant la saison estivale. Toutefois, à partir de la première moitié du 19e siècle, la présence autochtone à Rimouski se fait progressivement plus sporadique. Dans les années 1820, un groupe d'une centaine de Micmacs, dirigé par le chef Michel Richard, fréquente la région de Rimouski avant de quitter le territoire dans les décennies suivantes. Les Malécites se retirent de plus en plus vers le Kamouraska, surtout après la création, en 1827, d'une réserve dans le canton de Vigée, derrière la seigneurie de l'île Verte, tandis que les Micmacs semblent occuper davantage la région de la Gaspésie. Des membres des communautés Micmac et Malécites se rencontrent toutefois toujours au Bic et à Rimouski, où ils pratiquent la pêche au saumon dans la rivière Rimouski et la chasse aux marsouins dans les eaux de l'estuaire. À partir du milieu du 19e siècle, des restrictions gouvernementales sur la pêche au saumon et l'utilisation des rivières par l'industrie forestière limitent progressivement ses activités. Dans les décennies qui suivent, les Micmacs semblent migrer vers la baie des Chaleurs, tandis que les Malécites se dispersent de plus en plus dans le bassin Laurent. La cession de la réserve de Vigée par les Malécites en 1869 accélère ce phénomène. En 1874, le département des affaires indiennes, qui cherche à regrouper les Malécites du bassin Laurent, mentionne que des groupes de cette nation vivent toujours à Rimouski. La nation se voit finalement octroyer 3 lots dans le canton de Whitworth en 1876, ainsi qu'une terre à Kakuna en 1891, mais celle-ci est trop petite pour que tous les membres de la nation s'y installent et plusieurs décident de rester dans la région rimousquoise. Durant le 20e siècle, les informations sur les Malécites se font de plus en plus rares et relèvent de la statistique. La dispersion des Malécites sur le territoire entraîne plusieurs problèmes pour la nation, dont la dissolution du conseil de bande à Vigée et l'arrêt des services gouvernementaux pour plusieurs membres de la nation. La sédentarisation des groupes autochtones, le métissage et l'adoption d'un mode de vie à l'européenne font que beaucoup de Malécites oublient progressivement leur héritage autochtone. L'historiographie elle-même ne fait que rarement mention des peuples autochtones qui ont occupé la région de Rimouski et ont contribué à son développement. De nombreux ouvrages publiés au 20e siècle sur l'histoire de la ville de Rimouski ne contiennent ainsi que de brefs passages sur les membres des Premières Nations. Depuis la fin des années 1980, on assiste toutefois à une renaissance de la nation Malécite et à une revendication de l'héritage autochtone dans l'histoire de Rimouski. Plusieurs Rimouskois ont redécouvert leurs racines autochtones et contribué avec les autres groupes Malécites du bassin Laurent à cette renaissance. Les historiens ont aussi commencé à s'intéresser à l'histoire autochtone de la région et de plus en plus d'initiatives ont été lancées pour mettre en valeur la culture des premiers habitants de la région. Aujourd'hui, plusieurs centaines de membres des Premières Nations habitent à Rimouski. Dans son mémoire de maîtrise de 2011, la géographe Manon Calder-Head recense ainsi 225 Malécites au Bas-Saint-Laurent, dont 99 à Rimouski. La présence autochtone à Rimouski est ainsi toujours bien d'actualité et la communauté œuvre à mettre en valeur son histoire dans la région. William Chassé est doctorant en histoire à l'Université Laval. C'était La terre du chien, la présence autochtone à Rimouski, un texte de William Chassé, paru dans l'édition Été 2021, numéro 146, de la revue Cap au Diamant.
Cupidon est un chimiste. Un texte de Sophie Mangado, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Curium. Dès le premier regard, les molécules de l'amour partent en vrille. Elles prennent le contrôle du cerveau, pour le meilleur et pour le pire. Votre cœur s'emballe, vous êtes rouge tomate, vous avez chaud, vous gloussez pour rien et un peu bêtement. Si vous parlez, c'est pour débiter un paquet de niaiseries. Une force supérieure a pris possession de votre centre de commande, la passion amoureuse. Rien ne sert de lutter, la réaction est chimique. Grâce aux techniques d'imagerie médicale, les régions et les mécanismes dans le cerveau sont maintenant mieux compris. Sans détenir la recette exacte, les scientifiques connaissent les ingrédients du cocktail moléculaire amoureux. Le vrai filtre d'amour. Phényléthylamine. De la famille des amphétamines, c'est la molécule qui produit l'euphorie grisante des premiers temps. Adrénaline et noradrénaline. Généralement produites en situation de stress, elles sont également responsables du grand frisson amoureux. Vous savez, cette excitation qui chamboule tout. Dopamine et endorphine. Elles stimulent les zones cérébrales associées au plaisir et elles procurent une sensation d'énergie, de puissance et d'excitation. Sérotonine. Au contact de l'être aimé, son niveau baisse, ce qui peut provoquer de l'anxiété et un sentiment d'obsession. Impossible de penser à autre chose qu'à ses beaux yeux. Vous vous demandez avec inquiétude si la dite personne pense à vous elle aussi. Cortisol. Parce que tout ça est bien trop intense, l'hormone du stress diminue pour donner un coup de pouce à l'organisme. Et l'ingrédient secret? Une molécule qui donne envie de tomber amoureux-amoureuse, qui décuple les sentiments et qui booste le désir? On en veut! Nouvelle star des molécules de l'amour, la kisspeptine fait tourner la tête des scientifiques depuis une vingtaine d'années. Elle opère dans le système limbique, la région cérébrale liée à des composantes importantes de la sexualité, comme le désir et la séduction. La kisspeptine est donc essentielle à la reproduction, mais pas seulement à ce niveau. Elle affecte aussi les zones du cerveau associées à l'attachement amoureux, a révélé une équipe de recherche de l'Imperial College de Londres. Malgré les apparences, le nom de la kisspeptine n'a rien à voir avec le baiser. Le laboratoire qui l'a découverte se trouve à Hershey, en Pennsylvanie, États-Unis, où sont fabriqués les fameux chocolats Kisses. Ce sont eux qui ont inspiré les scientifiques dans le choix du nom. Alors que leurs recherches portaient initialement sur le cancer, les scientifiques ont découvert par hasard le rôle de la kisspeptine dans l'alchimie de l'amour. Après le coup de foudre, le beau temps? Ce beau parti chimique a une fin. Après 18 mois, les molécules de la passion diminuent progressivement pour disparaître après 3 ou 4 ans. Heureusement, une autre hormone vient à la rescousse de notre cœur, l'ocytocine. Surnommée l'hormone de l'attachement, elle favorise l'amour durable. Elle cimente notamment la relation en associant l'être aimé à des sentiments de réconfort et de bien-être. Ah! C'était « Cupidon est un chimiste », un texte de Sophie Mangado, paru le 16 janvier 2023 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Justine Langevin à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.